Voilà, je vous invite à lire un passage que vous connaissez bien, de toute façon vous connaissez la parole, mais il y a certains passages qu'on connaît mieux que d'autres, je pense que vous connaissez bien ce passage-là, c'est Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Il y a des épîtres, donc les épîtres, hein, c'est des lettres que les apôtres ont écrites. L'épître aux Éphésiens, c'est Paul qui l'a écrite, et elles ont toutes un thème. Hein. Le thème ou doctrinal, ou le thème de l'enseignement de cet épître, hein, c'est l'unité des croyants. Est-ce que vous cherchez, est-ce que vous aimez l'unité des croyants? L'unité des croyants. Alors il y a une chose à dire sur l'unité des croyants, c'est que l'unité n'a pas besoin de se fabriquer, puisqu'elle existe, parce que Christ n'a qu'une seule Église. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, il nous incombe de maintenir l'unité dans les liens de la paix. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé en Jésus-Christ, l'unité des croyants, une seule Église, c'est à nous de la maintenir. Et c'est là tout le problème. Et c'est ce qu'on a vécu dans les années 90, on a eu du mal à saisir les ressorts, les principes de ces unités. Et j'aimerais, pendant une série de messages qui va durer quelques dimanches, d'approfondir un peu cette question de maintenir l'unité dans les liens de la paix. Non pas de la fabriquer. Et aujourd'hui, il y a dans les milieux charismatiques particulièrement un désir de rechercher à faire l'unité. Et quand on est dans cette décision de rechercher l'unité, on est mal parti, parce que en fait, on va chercher à faire des compromis. Et tout ce qui est compromis, c'est toujours mauvais. Toujours mauvais, parce que la Bible n'est pas un ramassis de compromis. Bien qu'il y ait 66 livres, il y a une unité, malgré les 66 livres et les 50 auteurs différents sur plus de 2000 ans d'écriture. C'est du jamais vu. C'est divin. Ça n'existe pas en littérature, ça n'existe dans aucune écriture humaine. De pouvoir écrire un livre comme ça, qui est une unité centrale dans le sens, dans la compréhension, dans la théologie, dans tout ce que vous voulez. Or, cette unité, si on pense être, l'unité des chrétiens pense être obligé de la faire, on va forcément chercher des compromis. Alors que l'unité, Dieu l'a créée, parce que Dieu est un. Déjà, en Dieu, il y a l'unité. Et il nous a construit à son image, mais pas simplement en tant qu'individu, mais en tant que communauté. On va voir ça dans les séries que nous allons aborder dans les dimanches qui viennent. Alors on va lire ce passage d'Éphésiens qui parle de l'unité des croyants, l'unité déjà dans le couple, il parle beaucoup du couple, et ensuite après de l'Église, et ensuite à la fin, il termine dans Éphésiens 6 par la manière dont nous devons nous comporter pour maintenir cette unité. On va lire à partir du verset 6, du chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre ma bouche, je me sois donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Voilà, on termine là parce qu'après, c'est les salutations finales et la fin de l'épître. Alors c'est intéressant que la lettre aux Éphésiens termine par cette exhortation parce que elle unit, elle synthétise un peu ce que doit être notre attitude vis-à-vis de l'unité, l'unité des croyants et l'unité de l'Église. Actuellement, nous faisons des formations pour devenir membre de l'Église, sachant qu'on a deux types de membres dans l'Église. Les membres qui sont automatiquement membres de l'Assemblée des Saints, qui est l'Église universelle, au travers du baptême. Avec le baptême, pour nous, ce n'est pas un rite, ce n'est pas une obligation quand on est enfant de se faire baptiser. C'est un choix qu'on fait lorsque on a rencontré Jésus-Christ et qu'on manifeste ce choix par un engagement personnel vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de son Église, et que ce choix, on le fait personnellement, peu importe l'Église dans laquelle on le fait, du moment qu'il est fait selon la parole de Dieu, on entre dans l'Église et on en fait partie. Et ça s'appelle l'Église universelle, l'Église qui, dans tous les temps, dans tous les endroits, dans tous les lieux, eh bien, font que l'Église existe au travers de tous les baptisés, de tous les croyants qui sont engagés avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est très simple à comprendre. Et du coup, ce n'est pas à discuter. Et on accepte les gens, même s'ils viennent d'une autre église, qui sont baptisés, ils font partie du corps de Christ, on ne fait pas de différence. Donc là, on est dans l'unité que Jésus lui-même crée au travers de l'appel qu'il donne à chacun de le rencontrer et de faire alliance avec lui. Par contre, il y a un deuxième passage, je dirais, qui fait que dans l'église locale ici, on a un certain nombre de fonctionnements. Il y en a qui, des églises locales qui ont le culte l'après-midi, il y en a même Philippe Jauret maintenant, il fait le culte le mardi soir, bon, parce que bon, il a un public un peu particulier, etc. Bon, donc en dehors de ça, il y a d'autres règles, il y a d'autres manières de faire. D'ailleurs, Ricardo, qui nous avait aidé à reconstruire l'église, ils ont dit, vous avez un tas de codes, mais quand on arrive, on ne sait pas. Donc on est perdu. Voilà. Des codes, des manières de faire, un peu comme quand vous arrivez dans une famille. Bon, les enfants qui sont tout petits, ils arrivent à comprendre les codes parce que bah, ils sont élevés dans la famille. Mais quand on vient d'ailleurs et qu'on rentre dans une communauté locale, forcément, il y a des pratiques, des habitudes, des façons de penser, des façons de faire. Enfin, c'est énorme, quoi. Et quand on n'y adhère pas, alors, n'importe qui peut venir dans l'Église faisant partie de l'Église universelle. Mais à partir du moment où on veut prendre des décisions pour le fonctionnement de cette Église, c'est quand même mieux de connaître ces codes-là et de prendre des décisions tous ensemble dans la même direction pour que, d'une part, on les respecte. Vous voyez, il ne faut pas qu'on fasse comme dans le monde. Dans le monde, aujourd'hui, les Français particulièrement, mais c'est un peu partout dans le monde, ça ne marche plus avec les politiques. Pourquoi ? Parce que les politiques se pensent être au-dessus des lois. Vous voyez, bon, juste un exemple, mais je crois, comment il s'appelait, le gars qui est à Rouen, là, j'ai une perte de mémoire, là. Fabius, Laurent Fabius, qui habite à Rouen. Bon, bah, il s'est fait flasher à 190 à l'heure sur l'autoroute, là. Bon, bon, il s'est pris une prune, bon, il l'a peut-être fait sauter, mais voilà, les gens, ils pensent être au-dessus des lois. Pourquoi est-ce que je ne respecterai pas les lois? Ma voiture peut tuer quelqu'un si je suis politicien ou pas politicien. Vous voyez, je veux dire, voilà, c'est juste un exemple. Donc, la corruption, par exemple, elle est courante. Et aujourd'hui, on parle du Brésil, on parle du Venezuela, partout, chez nous aussi, et de la corruption. Pourquoi? Parce qu'on pense, quand on dirige un pays, qu'on peut être au-dessus des lois. sous prétexte que c'est par des causes d'État. Oui. Je ne trouve pas les mots, vous voyez ce que je veux dire. Des raisons d'État, voilà, des raisons d'État. Non. L'État, c'est une chose, hein, c'est un élément abstrait de direction collégiale qui est une république, mais chacun personnellement doit respecter les lois. Chaque citoyen. D'ailleurs, la France qui se veut être une république exemplaire, c'est marqué dans la république que personne n'est au-dessus des lois. Bon. Mais, vous voyez, dans la pratique, c'est autre chose. Et du coup, on crée des différentiels et on crée des injustices et on crée de la jalousie et on crée de la rancune, etc. Tout ce qu'on veut. Il ne faut pas que ce soit comme ça dans l'Église. Jésus l'a dit. Mais souvent, on importe des manières de faire du monde dans l'Église. Puis après, on s'étonne que ça ne marche pas. On s'étonne quel est le problème. On s'étonne que... voilà. Parce que nous sommes des humains. Je ne parle plus du premier membership de l'Église spirituelle et sainte, c'est parfait. On est parfait dans ce domaine-là, en Christ. Mais on reste imparfait dans le domaine humain. Et là, il faut que les choses soient claires. Donc, on fait une formation. Et dans cette formation-là, que je refais maintenant pour ceux qui n'ont pas pu venir à la première, c'est basé sur... Tout simple, je fais qu'une seule formation maintenant, pour pas encombrer les gens. On a un tas de papiers, hein, on a un tas de statuts, machin, etc. Bon, je vous laisse le soin de les lire et on va vous les donner pour que vous puissiez les lire chez vous et poser des questions. Mais je ne fais plus qu'une chose, je montre le modèle. Le modèle qui est à la base de notre compréhension du vécu ensemble. Un modèle d'identité. Et ce modèle d'identité, effectivement, on a mis 20 ans à le mettre au point pour bien vérifier que ce modèle est la traduction de l'enseignement biblique. Mais un modèle, l'avantage d'un modèle, c'est que tout le monde peut se référer au même modèle. Et on peut reprendre des personnes qui se sont engagées en tant que membres en disant bah, « Tu vois, ce modèle-là, on aimerait bien que tu puisses le suivre au mieux parce que ça constitue notre identité, notre être, notre façon d'être. » Ce qui est intéressant pour ceux qui suivent le modèle, dimanche prochain, je vous montrerai le modèle, je pense que je n'aurai pas le temps ce matin. Ce modèle ne prend pas en compte les ténèbres. C'est intéressant parce que très souvent les chrétiens, quand on écoute les chrétiens parler, etc., ils sont tout le temps après le malin, après Satan, le diable, qui fait ceci, qui fait cela. Alors je ne dis pas que le diable ne fait pas des choses, au contraire, il va tout faire pour vous casser les pieds. C'est un euphémisme. En tout cas, pour vous détruire, hein, pour voler, détruire. Ça, on est d'accord. Mais, en fait, parler de cela comme cela, en le désignant, en fait, on lui donne de l'importance. Et je sais que Ricardo, à l'époque, il y a 20 ans, nous avait dit, il ne faut pas parler ni des gens qui font des problèmes, etc., parce qu'on leur donne de l'importance. Il ne faut pas leur parler. Il faut parler des bonnes choses. Il faut parler des choses qui édifient, il faut parler des choses qui construisent. Et le reste, ça va disparaître tout seul. Eh bien, ce modèle que nous avons ici dans l'Église, c'est justement le fait qu'on ne tient pas compte, on ne rentre pas dans la prise en compte de ce que l'ennemi fait. Parce que les ténèbres, on le verra dans le modèle, les ténèbres, en fait, ne sont rien. La lumière, on verra que la lumière, Dieu a créé la lumière. Comprenez dans Genèse, chapitre tout premier verset, hein, au commencement Dieu, voilà, donc ça commence au commencement Dieu, et ensuite après on voit que la première chose qu'il crée, il crée la lumière. Amen. Voilà. Il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Notre Dieu est créateur. Nous le chantons. Il est créateur. Il est créatif, il est créateur. C'est lui qui crée toute chose. Et il a créé toute chose au travers de Jésus, son fils. Et là, déjà, on commence à apparaître la Trinité divine. Les ténèbres, c'est quoi ? C'est pas de l'antimatière, c'est pas de l'antilumière, c'est rien. C'est une illusion. Et quand on comprend ça, on ne peut pas prendre en compte dans un modèle de raisonnement quelque chose qui n'existe pas. Alors ? Oui. Si on le prend en compte, ça veut dire qu'on lui donne déjà de l'importance, comme si c'était une création. Et là, Satan commence à se frotter les mains en disant « Oh, parle de moi, intéressant. » Donc on m'écoute. Donc, je peux séduire le chrétien ou l'église en question. Et ça commence comme ça. Donc on a une écoute. Si vous reprenez l'histoire de la création dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, bien sûr, Dieu a parlé à Adam, pas à Ève. Donc Adam était le premier responsable du gardien du jardin. Mais Ève, qui est venue ensuite, a été mise au courant par Adam. Mais Satan est toujours malin, il prend la personne qui est peut-être le plus fragile ou le moins qui se sent le moins responsable, et donc il vient vers Ève. Et qu'est-ce qu'elle aurait dû dire à Ève ? Elle dit, mais écoute, va voir mon mari. C'est lui qui Dieu a parlé, et c'est lui qui va te répondre. Et donc, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre dès le départ, avant même de discuter quoi que ce soit, d'être obéissant à l'ordre que Dieu a établi. Alors, qu'est-ce qui serait passé ? J'en sais rien. Hein. Est-ce que Adam aurait, respecté les responsabilités qu'il avait ? J'en doute. Mais bon. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, l'ennemi a voulu faire croire, au travers de ce qu'il disait à Ève, qu'il y a quelque chose d'autre qui existait. Ah, Dieu n'aurait pas dit ça, il aurait dit autre chose. Et rien que entendant l'écoute de ça, on est déjà séduit. On est séduit parce que, en fait, l'ennemi, après, va présenter une vérité qui n'est qu'une illusion. Dieu n'a pas dit que tu mourras, mais il a simplement voulu dire que tu ne verras pas ce que moi je vais te montrer. D'autres mondes, d'autres choses, ce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens découvrent sur Internet au travers du Nouvel Âge, avec toutes sortes de techniques et de manipulations pour entrer dans des mondes parallèles qui sont que des illusions. L'ennemi est un illusionniste. Et si vous cherchez à se faire, vous cherchez des illusions, eh bien vous êtes bien placé avec lui. Mais l'illusion qui n'est que néant. À un moment donné, quand on était dans le combat spirituel, il y a maintenant, le Seigneur m'a parlé, et il m'a montré qu'à chaque fois que les hommes ont voulu agir contre Dieu, eh bien, ils utilisaient des vauriens, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Je cite juste ceux du Nouveau Testament. Quand les autorités, que ce soit religieuses ou civiles, ont voulu condamner Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, comme ils n'ont rien trouvé d'illégal en lui, ils ont payé des vauriens. Ils ont payé des gens qui ne valent rien pour faire un faux témoignage. Vous voyez ? Donc ils ont payé deux vauriens qui sont venus, et vaurien, étymologiquement, veut dire fils de Bélial. Bélial, c'est un autre nom de Satan qui est utilisé dans la Bible. Donc, fils de Satan. Donc, vous voyez, quand vous entrez dans une illusion, vous devenez des vauriens. Et là, c'est l'horreur. Hein. Vaurien, ça veut dire que vous ne voyez rien. Quand on commence à idolâtrer des choses, eh bien, les idoles, c'est des vauriens. Ça vaut rien. C'est rien. Ça s'appelle du néant. Ça s'appelle du néant. Parce que quand vous essayez de voir ce qu'il y a derrière une idole, bien sûr, il y a des démons qui manipulent, mais c'est rien. L'idole n'est rien. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. C'est un morceau de bois, un morceau de statue, un morceau de plâtre auquel on attribue des choses. Bien sûr, il est puissant derrière, on est d'accord. Mais en elle-même, vaut rien. Alors que la création de Dieu, Elle existe, elle est belle, elle est formidable. Elle a été polluée par le péché, mais elle est extraordinaire. On s'émerveille quand on va dans l'espace. Alors peut-être qu'un jour vous irez dans l'espace, moi je pense pas, il faut avoir un peu de dollars. Il y a les premiers touristes, je crois, qui ont... voilà, qui peuvent monter sur la Lune, et puis tous ceux qui ont fait ce voyage disent c'est extraordinaire. Dans l'espace sidéral, vous voyez le globe de la Terre qui est merveilleux, merveilleux. Et tout bleu, vous voyez, bleu de l'eau qui est là, les mers qui recouvrent la Terre, c'est merveilleux, quoi. Ils sont tous, en dehors du fait qu'ils sont beaucoup occupés, il y a des expériences de laboratoire, ils sont là, dans le hublot, ils prennent des photos, ça, c'est merveilleux, quoi. Il n'y a rien dans l'univers qui est comparable à la Terre, la création de Dieu. Amen. Et nous sommes au bénéfice de cette création. Est-ce que nous voulons échanger cette beauté de la création par des choses qui ne valent rien? C'est ça? Et le chrétien se laisse séduire. Et on verra comment, mais surtout comment en sortir de cette séduction. Et de plus en plus, la séduction va toucher l'Église, il va toucher les croyants, selon la parole de Dieu, dans les derniers temps, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Donc le modèle qu'on a mis au point dans l'Église, c'est, il ne tient pas compte des ténèbres qui ne sont que du néant, que du rien. C'est pas de l'anti-lumière, ce sont des choses qui ne valent rien. John Wimber, que j'ai beaucoup apprécié dans son ministère d'humilité, il disait ne voyez pas des démons partout, par contre il y en a partout, oui. Dans les buissons partout, etc., qui vous épient, mais vous ne faites pas attention à eux. Parce que si vous êtes des enfants de lumière, eh bien vous allez faire chasser les ténèbres. Ils sont obligés, quand vous avancez, regardez Jésus, quand il était sur la terre, quand il voulait se saisir de lui, parce qu'ils n'aimaient pas son discours, ils n'aimaient pas ce qu'il faisait, ils n'aimaient pas sa manière d'être, j'en sais rien, voilà, parce qu'il ne faisait pas partie d'eux, parce qu'il était de Galilée et puis les autres ils étaient de Jérusalem, enfin vous voyez, c'est les problèmes d'identité qu'on retrouve partout. Ils voulaient se saisir de lui, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, parce que son heure n'était pas venue, parce qu'il avait la protection de son père qui était là. Et vous, quand vous marchez dans cette autorité, eh bien personne ne peut vous toucher. Si Dieu ne l'a pas décidé, personne ne peut vous toucher. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'ennemi. L'ennemi, il est ce qu'il est, c'est un vaurien. Par contre, vous, vous êtes dans la nature du Christ, qui vous donne une identité, une autorité, une sécurité, une stabilité qui est incomparable par rapport à toutes ces choses qui ne valent rien. Amen. Vous le croyez, ça? Alors l'enseignement du modèle qu'on va voir, c'est notre responsabilité de ressembler à l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour être à son image. Enfin, il nous a créés à son image, pardon. Il nous a créés à son image. Et nous devons tout faire pour que nous ne ressemblions pas à ce que l'ennemi veut nous faire ressembler, hein, à des chiens, enfin, tout ce qui n'entrera pas dans le ciel, hein, mais à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est d'abord la dignité d'être une personne. La dignité morale d'être une personne, et cette dignité, nous la portons, et c'est la différence entre les animaux et l'homme, qui est au-dessus des animaux. L'homme a la conscience de sa dignité qu'il a reçue de Dieu. Et si on perd cette dignité, comme c'est le cas aujourd'hui, avec toutes les lois permissives et relativistes, eh bien, l'ennemi pousse à perdre cette dignité humaine et nous ramener au rang de la création qui ne reconnaît pas cette dignité. Donc notre responsabilité, c'est de ressembler à Dieu en tant qu'image de Dieu et d'entrer dans son plan. Alors il y a deux termes que vous allez entendre pour ceux qui s'intéressent à l'Église, c'est l'imago Dei, c'est l'image de Dieu, c'est en latin, et la missio Dei. La mission de Dieu. Rentrer dans la mission de Dieu, c'est l'Église missionnelle, et l'image de Dieu, c'est l'image incarnationnelle de Dieu. Cette responsabilité consiste à entrer dans un plan où Dieu rachète la création. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est une histoire de la rédemption. Comment Dieu va racheter ce que l'homme, avec l'aide du vaurien qui est Satan, a détruit, hein, ce que Dieu a fait, la dignité de l'être humain, et jusqu'à l'Apocalypse où Jésus va revenir, et il revient bientôt, pour rétablir toute chose et mettre le vaurien dans l'abîme éternel, pour ne plus être cet illusionniste sur la création. Racheter la création de la malédiction en lui redonnant la liberté. Le mot important, c'est la liberté. Dieu veut que nous soyons libres. Qu'est-ce qui est libre ici? Alors oui et non. Oui et non. On a une mesure de liberté, voilà, mais on est en marche vers la liberté. Ce n'est que quand Jésus va revenir, qu'il va nous donner un corps nouveau, et puis voilà, aussi une mentalité nouvelle, que nous serons vraiment libres. Aujourd'hui, nous sommes conditionnés. Conditionnés par le monde. Et les hommes, à l'époque de Jésus, voulaient le faire, voulaient l'influencer. Il y avait des lobbies partout, hein, pour faire rentrer Jésus dans un moule de ce monde. Et Jésus, à chaque fois, il disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et il a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du monde. On vous a extrait du monde pour être retourné dans le monde, mais pas en étant du monde, mais en amenant la lumière dans le monde. Mais ce monde est tellement prégnant sur notre chair, qui est encore soumis au péché, que nous nous laissons influencer par le monde. Et les chrétiens compris, surtout quand on rentre dans une routine. La sœur tout à l'heure me disait, pire c'est d'entrer dans une routine. C'est vrai que quand on rentre dans une routine, on perd le peps, on perd cette faculté, pardon. Oui, cette vigilance, je dirais. Cette vigilance. Vous voyez, quand vous commencez à rentrer. Alors, je vous montrerai dans, je ne sais pas si c'est dimanche prochain, ça dépend de la visite à laquelle je vais pouvoir enseigner. Je vais montrer une vidéo qui a été donné à un serviteur de Dieu qui montre exactement ce qui se passe pour les chrétiens aujourd'hui. Un sommeil, une léthargie spirituelle. Et quand on tombe dans cette léthargie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si ce n'est des armes, on verra plus tard, à utiliser pour en sortir. Mais sinon, vous êtes parti avec l'ennemi. Donc notre vision, la vision de ce modèle, c'est en marche vers la liberté. Dis-le à ton voisin, en marche vers la liberté. Ouais. Nous sommes en marche. Hein. Je ne parle pas de la politique de Macron. Hein. Mais nous sommes en marche. En marche vers la liberté. Nous aimons la liberté, nous voulons la liberté, mais nous ne sommes pas libres. Et c'est aussi pour cela que nous faisons le ministère d'Élie, qui a cette vocation de nous amener petit à petit à acquérir plus de degrés de liberté, jusqu'à la liberté totale que nous aurons que lorsque Jésus va nous changer. Amen. Donc ne rêvons pas, nous ne serons pas totalement libres, mais nous pourrons de plus en plus être non plus dépendants de l'illusionniste, mais dépendants de Dieu qui nous fait entrer dans notre destinée. Donc nous gagnons en liberté dans tous les domaines, y compris dans la délivrance des démons, qui fait partie de notre domaine de responsabilité sur la terre, parce qu'ils font partie du premier ciel, on verra ça plus tard. Il y a 3 ciels dans la Bible, mais pas 7 comme chez les musulmans, hein, mais 3 ciels qui sont décrits dans la Bible. Et le deuxième ciel, qui est de la responsabilité de Dieu et de ses anges, et non pas du nôtre. Et là, c'est une illusion que l'ennemi veut nous faire aussi utiliser pour le faire entrer dans ses plans. Donc il y a 20 ans, ça tombe bien, Marise, Claire sont là. Il y a 20 ans, nous l'avons compris. Parce que dans les années 90, donc à peu près une dizaine d'années, enfin 8-9 ans, nous avons été confrontés à cette puissance dont parle Éphésiens, hein, puisque l'apôtre dit car, alors, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur, voyez-vous. Il ne parle pas de l'ennemi, hein, il parle de se fortifier dans le Seigneur. Donc c'est quelque chose de positif qui ne tient pas compte de l'ennemi. C'est fortifier dans le Seigneur. Pour être en marche dans la liberté, il faut se fortifier dans le Seigneur. Mais il dit un car. Le car, verset 12, ça veut dire qu'il y a une cause. Une cause à ces difficultés de pouvoir se fortifier. Et dit car, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances. Le vrai problème qui est non pas que nous sommes pécheurs en étant chrétiens, ça c'est une réalité, mais à la limite, par des moyens, nous pourrions nous en sortir, mais il y a des puissances, des autorités qui font tout pour pas que nous puissions nous fortifier dans le Seigneur, mais que nous puissions tomber dans les griffes de l'ennemi. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Alors certains chrétiens cherchent une méthode pour contrer ces puissances et ces autorités. Et donc on a trouvé un tas de moyens dans ces dernières années, surtout chez les charismatiques, pour nous débarrasser de cette emprise des puissances. Le problème, c'est que avec ces méthodes-là, on empire les choses. Et nous, on est tombé dans ce piège-là. Lorsqu'on est venu ici, alors que Dieu nous a montré ce local, nous étions pendant un architecte, nous avons travaillé, j'ai travaillé pendant un an sur les muraux, ça s'est fermé et le Seigneur nous a montré ce local-là. Mais ce local-là a été malheureusement habité par une puissance et une autorité territoriale, donc pas du premier, du deuxième ciel. Tout simplement parce qu'il y a une correspondance entre les autorités terrestres et les autorités spirituelles. Ici, cette ville-là, avant 1920, il y avait juste un château, il y a des vestiges encore qui sont là, qui étaient là, et le reste c'était de la forêt. Donc il n'y avait pas de ville, la ville c'est Aubergenville qui est assez vieille, mais qui est de l'autre côté de l'autoroute, il faut aller assez loin pour rentrer dans la ville d'Aubergenville. Mais comme c'est une commune, donc ces terres appartiennent à la commune d'Aubergenville. Mais ici, il n'y avait rien, ça part un château. Et il a été décidé, alors ne me dites pas comment, parce que je n'étais pas une petite souris pour savoir qui a décidé quoi, mais il se trouve que la reine Élisabeth de Belgique, qui était assez particulière, et en particulier versée dans l'ésotérisme égyptologue, eh bien, elle a sponsorisé avec le baron Empin, que vous connaissez aussi, puisque sa fille a été enlevée dans les années 72-74, voilà, qui a été enlevé, qui était un richissime belge. Donc, un financement qui ont construit une ville champignon ici, Elisabethville. Et on a donné ce nom à la reine Elisabeth de Belgique, pour ça, ça s'appelle Elisabethville. Mais ce n'est pas une ville, c'est un quartier. C'est pour ça qu'il y a une confusion, là. C'est vrai que les habitants ont fait un combat, je crois, de 10 ans, qu'ils ont perdu vis-à-vis de l'État pour faire une ville. Ils voulaient faire une ville séparée d'Aubergenville. Ils n'ont pas réussi, parce qu'en plus, il y a des gens qui habitent sur Épône, qui est sur Aubergenville. Donc, vous voyez, c'était pas simple. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont soit arrivés, parce que voilà, maintenant, on commence à. Vous savez que l'Alsace va devenir de nouveau une. Ils vont fusionner le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Voilà, donc on arrive à faire des choses maintenant qu'on n'arrivait pas à faire avant. En tout cas, ça leur a été refusé. Mais ça s'appelle toujours Elisabethville. Mais en fait, c'est Elisabeth Cartier, Aubergenville. Faut dire sur le plan légal. Ceci étant, cette ville, cet endroit où il n'y avait rien, a été choisi par cette reine qui avait aussi un œil sur le royaume de France. Vous savez que la Belgique et la France, la France du Nord, c'était la France à l'époque. Le Sud n'appartenait pas à la France. Enfin, ça, c'est de l'histoire. Vous regardez l'histoire. Et la Belgique faisait partie du royaume de France. Et donc, elle se sent un droit de contrôler, de diriger les rois qui s'asseyent sur le trône de France. Aujourd'hui, c'est des nouveaux rois. Hein, ça s'appelle les rois présidents. Mais c'est toujours des rois. En tout cas, il y a une continuité dans cette règne, dans ce règne. Et il y a un contrôle, aussi bien spirituel que naturel. Et donc cette autorité a sévi ici. Et donc, on était totalement ignorant. Moi, j'étais totalement ignorant de ces choses. Et le Seigneur m'a montré, par une révélation, cette réalité des choses que j'ai confrontée après avec d'autres, comme m'a dit Corambéry, que vous connaissez, qui m'a dit, bah, en Afrique, c'est connu. Il m'a expliqué beaucoup plus de choses que je ne savais. Qui, là-bas, on prend des précautions quand on est sur des axes comme cela, alors que nous, on baigne dans un truc feutré, mais qui est non moins puissant, en l'occurrence. Donc nous avons été confrontés à cette puissance territoriale établie par la reine Élisabeth de Belgique. D'ailleurs, il y a même un vestige encore, un couloir, un tunnel qui va de l'autre côté où elle allait au restaurant après avoir regardé ici le spectacle qui était un théâtre-casino. Donc cette puissance a été établie ici sur un axe de contrôle du royaume de France. Et nous avons pris autorité sur ces puissances sans nous rendre compte que c'est interdit dans la Bible. Donc dans ces années-là, par des serviteurs et des servantes qui venaient de l'étranger, on allait sur les hauts lieux, on prenait autorité, et on faisait ce que tous ceux qui font, ça leur retombe sur la tête, parce que ce n'est pas de leur juridiction. Ça, il faut le savoir, c'est que notre juridiction, c'est sur la terre. Dieu nous a donné la terre, mais il ne nous a pas donné le ciel. C'est Dieu qui contrôle le ciel, et c'est les anges de Dieu. Si vous prenez Daniel, vous voyez qu'il y a une confrontation de puissance dans le ciel, mais ce n'est pas Daniel qui s'en occupe. Il retraduit une réalité qui est certes vraie, mais que Dieu, seul Michel, même Michel a mis plusieurs jours à passer cet endroit qui est hostile à la volonté de Dieu. Et si nous prenons des choses en main sans en être autorisés, eh bien, il y a des conséquences. Et malheureusement, on a subi ces conséquences. Et ça a été le chaos organisé, que ce soit dans l'église ou même dans ma famille, qui en a été blessée à ce moment-là. C'est en fait la stratégie de Balaam. Tout à l'heure, on a lu pour les offrandes un texte à partir de Michée 6, 5. Il est dit « Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak ». Roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Péor, depuis Chittim jusqu'à Gilgal, afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'Ancien Testament nous apprend des choses qui sont toujours vraies aujourd'hui au niveau du combat spirituel, entre autres. Et quand Israël est sorti d'Égypte, tout le monde savait, qu'il n'y avait pas de télévision, ni de radio, ni quoi que ce soit. Vous savez, il y a le téléphone arabe, comme on dit, qui marchait bien. Donc tout le monde savait que les Israélites sont sortis d'Égypte de manière incroyable. Miracle jamais connu. Tout un peuple, des milliers et des milliers de gens qui traversent la mer Rouge et qui, derrière eux, entraînent toute l'armée d'Égypte dans ses eaux. Aujourd'hui, c'est fêté par les Juifs au travers de la Pâque, le passage. Et c'est encore un fondement de leur liturgie, la Pâque. Mais à l'époque, les gens savaient. Et ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, si Dieu est capable de faire ça pour le peuple d'Israël, qu'est-ce qui va nous arriver, en tout cas, pour le roi de Moab, où il devait passer pour aller en Canaan? Donc le roi de Moab a dit, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les maudire. Parce qu'à l'époque, c'est ça. Dans les structures tribales et tout ça, vous savez, il ne faut pas chercher uniquement en Afrique. Ma mère, elle habitait un petit village en Alsace. Elle disait, il y a des vaches qui crevaient, et les machins, parce qu'on maudissait les choses. Dans les campagnes, on connaît bien ça, parce que ça existe dans n'importe quelle culture. Maudire quelqu'un, parce que si on maudit, et ça c'est l'enseignement du TQP, deuxième ou troisième enseignement, sur la bouche, les paroles de vie. une troisième, parole de vie. Et pas de maudire, mais de donner des paroles de vie. Nous sommes appelés à donner des paroles de vie. Est-ce que nous le faisons tout le temps en tant que chrétiens? Et si nous sentons attaqués par l'ennemi, est-ce que nous avons tendance à utiliser des paroles de malédiction? Attention, faisons très attention à notre bouche, ce qu'elle dit. Et la stratégie de Balak, c'était dire on va les maudire, et en particulier en utilisant un homme de Dieu. Donc il a demandé à Balaam de venir en disant, écoute, voilà ce peuple, tu vas me le maudire. Voilà. Et du coup, voilà, nous on sera plus rassurés de son passage, parce que si Dieu fait des choses comme ça, s'ils sont maudits, Dieu ne peut pas les bénir. Et donc s'il ne les bénit pas, nous, voilà, c'est une stratégie de guerre, hein. C'est une stratégie de défense et de guerre. Je ne raconte pas l'histoire, je ne prends pas le texte, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? À trois reprises. Alors que Balaam était prêt à prononcer une malédiction parce qu'il était payé. Vous savez, parce que le problème de l'argent, un peu comme Simon le magicien, ça marche à tous les coups, on achète les hommes de Dieu et hop, on les a dans la poche. Donc il avait un intérêt, à cause du gain qu'il avait, de maudire. Il n'a pas pu. Au moment où il arrivait pour prononcer sa malédiction, il y a des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche, puissant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas, et sachez-le, mes bien-aimés, ne permet pas qu'on vous maudisse. La malédiction ne marche pas. Moi, je l'ai vécu dans ces années de combat. J'utilisais des versets qui proclamaient la bénédiction et je voyais des choses incroyables, des gens qui étaient projetés parce qu'ils voulaient maudire, ils ne pouvaient pas. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu l'a béni. Parce que Dieu vous a donné, nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Pensez-vous que quelqu'un peut maudire Jésus-Christ et Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu, quand il bénit, il bénit. Et quand il fait quelque chose, il a créé une œuvre de libération à la croix en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester basé sur la croix. Parce que c'est la croix qui nous donne la victoire. Amen. Ce n'est pas nous. C'est ce que Jésus a fait. Et on ne peut pas maudire l'Église, on ne peut pas maudire, sauf qu'on a des retours de bâton. Et ceux qui le font, attention à eux, parce qu'ils prennent de grands risques de faire ça. Du coup, à trois reprises, Balaam n'a pas réussi à maudire le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé après, ceux qui connaissent l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça ne s'est pas arrêté là. Pardon? Je vous écoute. Ceux qui connaissent bien leur Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Alors, c'est plus subtil qu'un pacte. Parce qu'un pacte, vous savez, un chrétien, si vous présente un pacte, vous dites, non, moi je suis chrétien, j'aime. Non, c'est plus subtil que ça. L'ennemi est subtil, c'est un illusionniste. Il a un chapeau et le lapin, il sort. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Voilà. Mais vous êtes, là-devant, incroyable. Quoi. Bon. Non. Il a suggéré à Balak en disant, écoute, Balak, bon, ça n'a pas marché, pas de ma faute, Dieu m'a empêché de te maudire. Mais je te donne une astuce qui marche à tous les coups. À tous les coups. Il dit, voilà, tu dis à ton peuple d'aller sur les montagnes là, qui entourent le peuple, les montagnes, qu'on voit bien ce qui se passe. Et tu fais des fêtes là-haut. Alors, vous aimez les fêtes? Oui, pourquoi pas, c'est bien les fêtes. Sauf que c'est des fêtes dans lesquelles ils adoraient des idoles, des vauriens, des idoles. Donc c'est du rien, mais derrière il y a des démons. Et les démons vont agir... à la faveur d'ailleurs un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue au passage, et surtout les femmes. Okay, tu vas dire à tes femmes, voilà, de s'exposer dans ces fêtes-là et tout ça, voilà. Et tu vas voir, ça va marcher tout seul. Qu'est-ce qui va marcher tout seul? Ils vont se maudire eux-mêmes. C'est ça la stratégie. Oui, c'est pas un pacte. C'est simplement, tu m'as demandé de les maudire pour que tu ne sois pas inquiété par ce peuple. Eh bien, je te donne une astuce qui marche à tous les coups, puisque là, ça ne marche pas. Tu les fais se maudire eux-mêmes. Bah, comment ? Bah, tu utilises les femmes, tu utilises les drogues, l'alcool et tout ça. Et c'est parti tout seul. Et l'idolâtrie, et après le mariage avec des concubines. Moi, je sors d'une école qui est assez noble, hein, les arts et métiers. Mais, il y a la première année, il y a le bal des gazins. Alors là, toutes les filles, elles attendent ça depuis, arrivé à un certain âge. Alors, vous verrez toutes les filles qui défilent là. Puis il y a beaucoup de mariages après ça. Hein. Mais c'est n'importe quoi comme fille, hein, pour certains. Bon, après, ils en auront pour toute leur vie à vivre avec ça. C'est leur problème. Mais voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche. J'ai vu des copains, des collègues, voilà, qui se sont fait avoir comme des bleus. Bon, OK. Bon, c'est leur vie. Bon. Mais vous voyez, c'est des stratégies qui marchent tout le temps. Tout le temps. Voilà. Il faut simplement avoir l'intelligence de voir d'avance les pièges qui sont tendus derrière ça. Okay. Donc, pour revenir à notre ami Balaam, eh bien, Balak a bien compris. Bah oui, mais il fallait y penser. C'est aussi bête que ça. Et ils l'ont fait. Et le peuple s'est maudit lui-même. Et il est perdu. C'est pour ça que vous voyez le peuple d'Israël qui a des élans où il va vers Dieu. Il redescend. Paf ! Il va vers Dieu. Il redescend. Comme ça. Et les rois aussi. Les rois, oh, ils montent et descendent. Il n'y a que deux rois qui ont un peu tenu, c'est David et Ozias, hein, qui a réformé, etc. Mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Hein. La réforme, vite, on lui a coupé l'herbe sous les pieds pour faire autre chose. C'est attristant et c'est même accablant. Mais c'est la réalité. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes pareils, non ? Non ? L'Ancien et le Nouveau Testament, ça n'a pas changé le péché. C'est Jésus qui a changé historiquement le fait que le péché était vaincu. Mais il faut s'en servir. Si nous n'en servons pas, nous sommes, disons, attachés au même problème que ceux de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de changement. Notre chair est la chair. La chair de l'Ancien Testament est la même que le Nouveau Testament. Okay ? Donc, il faut utiliser les bons outils, et en particulier la croix, le seul outil qui marche pour ne pas tomber sous la malédiction, mais rester dans la bénédiction. En Jésus, nous sommes bénis. En Jésus, nous avons la bénédiction. Mais très souvent, nous la lâchons pour autre chose. Nous la lâchons pour des choses secondaires, pour des choses qui ne valent rien. Pour des choses qui... Et le travail nous entraîne à ça. Les loisirs, toutes sortes de choses dans le monde. C'est fait pour ça. L'ennemi, il utilise ça. Il utilise le monde pour cela. Donc la stratégie de Balaam, c'est de pousser les Israélites à se maudire eux-mêmes et à prendre le contrôle sur eux. Au XXIe siècle que nous sommes, l'idée de l'ennemi, c'est pousser les chrétiens à se maudire par le combat spirituel stratégique du deuxième ciel. Et c'est là qu'on parlera du combat spirituel qui ne faut surtout pas faire. Et Marc Brisebois, qui était passé il y a 15 jours, est influencé par ces enseignements de combat spirituel stratégique sur les villes. Et il s'est placé sous cette malédiction qui atteint tous ceux qui pratiquent ces combats, en particulier les gatherings que j'ai vus à Jérusalem. Je ne l'avais pas vu à Munich, mais à Jérusalem, c'était clair. Résultat, et vous verrez le film que je vais vous montrer, c'est qu'on tombe dans une léthargie. La léthargie, c'est quoi ? C'est pas la mort, hein, mais c'est une vie ralentie. C'est une hibernation. C'est un sommeil artificiel. Et pendant ce sommeil, on se fait dépouiller. On se fait dépouiller par l'ennemi parce qu'on ne peut plus utiliser les armes spirituelles du chrétien. Le casque, etc. Il faut être éveillé. Vous êtes d'accord ? Un soldat vaillant, il est éveillé. Si on le place à la garde et il sommeille, ah ben, l'ennemi il passe. Hein. Il ne peut plus garder la cité. Vous voyez ? Donc, la stratégie de l'ennemi, c'est que quand il nous fait entrer dans un combat spirituel stratégique, hein, du deuxième ciel, eh bien, on tombe dans un sommeil léthargique, dans une léthargie. Et du coup, l'ennemi nous dépouille. Il nous dépouille de nos biens, de notre autorité parentale, de notre autorité tout court, de toutes sortes de choses. Et vous verrez dans cet enseignement, Dieu a parlé très clairement pour vous expliquer ça, les choses encore mieux que moi. Mais nous, on a vu ça dans l'Église. On s'est fait dépouiller. On s'est fait dépouiller. Jusqu'au cas où on ne se comprend plus, on a de la confusion, les responsables ne peuvent plus marcher dans l'unité dont je parlais, etc., etc. Le seul moyen d'en sortir, pour lequel on est sorti, c'est la repentance. C'est la repentance. Il n'y a pas deux moyens d'en sortir quand on est là-dedans. Et je prie pour ces personnes-là, que ce soit Marc ou d'autres, je ne citerai pas, qui sont tombées dans cette léthargie, il faut la repentance. Il faut prier pour la repentance. D'ailleurs, tous les réveils spirituels ont toujours commencé par la repentance. Dans ce que nous, on a vécu, Michel et moi, on s'est repentis pendant 5 semaines, tout seul, en abandonnant notre poste de responsabilité. Et ensuite, après l'Église, on l'a fait entrer dans 5 semaines de repentance. Ce n'était pas prévu 5 semaines. Pour moi, c'était in vitam aeternam. C'est Dieu qui a arrêté 5 semaines, parce qu'il a considéré que c'était suffisant. Mais les semaines, enfin, la repentance est le seul moyen de sortir de la léthargie, de sortir de ce sommeil que l'ennemi a mis sur nous pour réaliser qui est Dieu. Alors, il y a des réveils qui sont produits assez incroyables. Vous avez le réveil de, je pense, celui qui était à New York, qui s'appelait... Non, c'est pas David Kirsten, il était à New York aussi. Non, avant, c'était une cinquantaine d'années avant. Ça me reviendra. Finet. À un moment donné, Dieu a utilisé sa prédication. Quand vous la lisez, vous ne voyez rien d'extraordinaire. Mais il y avait une puissance derrière où, de ce coup, les chrétiens qui étaient dans l'Église, ils se sentaient aller en enfer au point qu'ils couraient vers les poteaux. Il y avait plus de poteaux que ça dans cette église-là, les poteaux. Et ils se tenaient pour ne pas descendre en enfer. Ils se tenaient pour ne pas descendre. Ils se voyaient entrer en enfer. Et quoi, il y avait des cris, il y avait des choses en criant à Dieu, en demandant pardon, etc. Et c'est là que le réveil a éclaté sur la ville de New York, où c'est touché, je ne sais pas, des milliers d'avocats, des juges qui sont convertis, des gens d'une très grande importance, un réveil extraordinaire. Ça a démarré par une réalisation, par la repentance. Donc on verra ça. Les cultes qui vont venir. L'église d'Aubergenville, qui a été sujet à cette stratégie de Balaam, et à cause de cette histoire qu'on ne connaissait pas, qu'on pensait que tous les gens pensent que c'est juste historique, quoi, on a créé une ville et tout ça. Non, il y a une réalité spirituelle derrière. Quand on ne comprend pas, on passe à côté. Et en tant que chrétien, on se fait avoir. Donc, le PEA, l'Église protestante, a été refondée dans son organisation et dans son mode d'action sur ce qu'on appelle maintenant la trialectique. C'est-à-dire, c'est un raisonnement à 3 niveaux, avec 3 formes, avec 3 éléments fondamentaux, comme la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce modèle n'intègre absolument pas les ténèbres. Il n'intègre pas la stratégie de Satan, parce qu'on ne s'en occupe pas. C'est Dieu qui s'en occupe. Par contre, nous, on entre dans la liberté, et quand on rencontre un démon, il faut lui dire simplement, toi tu dégages, quoi, c'est tout. Voilà, tu dégages. Et l'autorité naturelle suffit. Il n'y a pas besoin de s'exciter pendant des heures et des jours sur un démon. Vous voyez, simplement, il faut le faire, comme vous vous mouchez, comme vous faites autre chose. Et ça fait partie de libérer la place pour libérer les personnes libérées. Mais c'est uniquement les esprits qui sont dans le premier ciel, on le verra. Et c'est un mode de raisonnement qui, malheureusement, n'est pas enseigné en Occident. L'Occident, au travers de l'entrée en masse des chrétiens au moment de Constantin et de Clovis après. Clovis savait que le pape est venu exprès pour la fête de Clovis, qui faisait 1500 ans, je crois, qui est le fondement du christianisme occidental, en Occident. Eh bien, lui, bon, il s'est converti parce qu'il était en train de perdre une bataille, et puis il a imploré le Dieu de sa femme, et il a gagné. Bon. Admettons que ce soit une conversion. En tout cas, il s'est fait baptiser avec, oh, je ne sais plus combien, sur Wikipédia c'est marqué. Pardon ? J'allais dire 1000, mais ça me paraît encore beaucoup en y pensant. Avec 1000 de ces soldats, est-ce que vous croyez que ces 1000 se sont tous convertis ? Attendez. Il faut être raisonnable. Hein. Vous voyez, c'est un baptême de masse. C'est un baptême de masse. Ça s'appelle l'église des multitudes. C'est-à-dire tout le monde rentre par intérêt. Comme au temps de l'autre empereur, qui est Constantin. Quand il a décrété que l'Empire romain deviendrait chrétien, ah ben, vous savez, si vous voulez être fonctionnaire ou fonctionnaire, vous avez tout intérêt à accepter la religion de votre patron. Okay. Donc, voilà, ne rêvons pas. Ce n'est pas du tout des conversions. C'est une adhésion opportuniste à une décision de son chef. Et à partir de là, eh bien, l'Église est devenue est rentrée dans un sommeil. L'humanisme est rentré dedans, toutes les influences sont rentrées dedans, etc. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église universelle, l'Église catholique, qui s'appelle universelle, et dans lequel, eh bien, il n'y a pas du tout, même s'ils croient en Dieu, c'est pas du tout des gens qui ont une relation personnelle avec Jésus. Et c'est que la relation personnelle avec Jésus qui fait de nous des chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ et que nous voulons suivre son enseignement. Donc, ce mode de raisonnement a été remplacé, ternaire, par un modèle dualiste. Et le modèle dualiste, c'est un modèle qui prend en compte l'ennemi et qui cherche toujours à confronter le bien et le mal. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est ce fruit de l'arbre de la connaissance qui maintenant est utilisé par la plupart des chrétiens. S'ils ne réalisent pas qu'ils doivent abandonner ce mode de raisonnement dualiste, manichéen, qui oppose des choses, qui disent ça c'est bien, ça c'est mal. Et moi je suis toujours dans le bien. On est dans un paradigme de puissance pour ceux qui ont écouté ce paradigme-là. Et à ce moment-là, on impose des choses. Et à ce moment-là, on contrôle les choses. Et à ce moment-là, on est dans une logique qui divise, dans une logique qui sépare, dans une logique. Et après, on s'étonne du chaos. Bah forcément, on s'étonne du chaos. Qui sommes-nous pour juger ? Nous ne sommes pas là pour juger, c'est Dieu qui va juger à la fin des temps. On n'est pas encore dans cette histoire-là. Vous voyez ? Nous, nous sommes là pour aimer même notre ennemi. Vous voyez ? Même notre ennemi, même s'il est utilisé par Satan. Si Dieu nous amène à l'aimer, eh bien, il ne pourra rien nous faire, puisque nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Voyons, on rejoint le mode de compréhension avec les trois éléments dont on parlera la prochaine fois, qui dans la Trinité sont Père, Fils, Esprit, c'est une communauté d'amour. Une communauté. Dieu n'a pas peur de l'ennemi. Dieu n'a pas peur de Satan. Il considère que c'est un rien. Et qu'il a préparé déjà son avenir. Son avenir sera dans l'enfer éternel. Bon, simplement, il faut attendre le temps. Okay, c'est une question de temps. Mais la réalité, elle est déjà tracée. L'histoire est déjà écrite. Okay. Donc, nous restons simplement à notre place. À notre place. Ne cherchons pas à faire autre chose, défendre Dieu, défendre la cause de Dieu. Ça s'appelle des croisades. Hein. On a vu ce que ça donnait, les croisades. Hein. Défendre Jérusalem parce qu'elle est envahie par les barbares. Oui, regardez ce que ça donne. Ah ben, on recommence les croisades, toutes les époques, pensant qu'on est les meilleurs, que les autres n'ont rien compris, que nous on a compris. Ça, c'est encore une illusion. Donc, on va voir comment mener ce combat spirituel et surtout pas prendre Éphésiens 6 sur ses puissances en le mélangeant avec d'autres versets. Parce que l'habitude, c'est que si on veut se donner raison, on cherche des versets qui vont dans notre sens, penser. Et à ce moment-là, on mélange tout, on n'est plus du tout dans une foi saine, équilibrée. Donc si nous voulons rester dans la bénédiction de Dieu, si nous voulons garder notre autorité parentale, notre autorité spirituelle, eh bien, il nous faut rester sur la parole de Dieu, et que sur la parole. Utiliser la repentance si nous sommes en léthargie pour en sortir et reprendre le combat et nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Amen. Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes la capacité de ne pas céder à la pression du monde, à la pression, Seigneur, de ceux qui nous entourent, même s'ils sont chrétiens, d'adopter des stratégies, Seigneur, de combat spirituel qui ne sont pas de notre responsabilité. Seigneur, toi, tu as créé le ciel et la terre, mais tu as donné la terre à l'être humain et pas le ciel. Et Seigneur, toi, tu t'en occupes. Tu es assis à la droite du Père. Et le Père met sous tes pieds tous les ennemis spirituels. Et c'est là que la fin viendra, lorsque ce temps sera achevé. Mais Seigneur, nous sommes tout simplement des témoins de ta grâce, des disciples de ta parole. Nous voulons être des témoins de ta grâce et de ton amour. Et nous te prions de nous aider à rester simplement dans cette position, à ne pas chercher, Seigneur, des nouvelles révélations, des choses qui, Seigneur, sont inspirées par l'ennemi pour nous faire chuter et nous faire rentrer sous la malédiction. Seigneur, nous ne voulons pas nous maudire nous-mêmes alors que tu nous as bénis. Nous voulons rester fermes. Et Seigneur, nous te remercions de ce que cette parole qui nous a donnée dans Éphésiens nous aide à nous revêtir de toutes les armes de l'esprit et particulièrement de la prière. C'est pourquoi aussi, Seigneur, te demandons de nous aider à établir ici une maison de prière pour toutes les nations, afin que, Seigneur, cette Église soit fondée sur ta parole et sur la prière. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce et je te prie de bénir mes bien-aimés tout au long de cette semaine afin qu'ils puissent déceler, Seigneur, les stratégies de l'ennemi et qu'ils ne tombent pas dedans, qu'ils puissent, Seigneur, non seulement en sortir, mais Seigneur, en être vainqueur. Et Seigneur, que tu donnes à chacun d'être vainqueur dans les situations dans lesquelles ils vont se trouver. Je te prie au nom de Jésus. Amen.